Bienvenue à cette remise des diplômes des promotions 2017 et 2016 pour certains. Je vous annonce d'abord le programme avant de laisser la parole à notre directrice Sophie Mungar et à Marie-Mathieu Privost, notre directrice de l'enseignement. Donc l'après-midi, nous allons commencer par deux interventions. Ensuite, je reprendrai un peu la parole pour fixer les règles du jeu pour la suite. Donc l'ensemble de vos, évidemment, les diplômes vous seront remis. Et on terminera donc l'après-midi par en fait donc la remise du prix du masterien, auquel un certain nombre d'entre vous ont candidaté. Et puis donc nous terminerons aussi par une présentation de Pont Alliance avant de nous retrouver pour un cocktail dans le hall donc du bâtiment principal, donc vers 18h. Voilà. Je laisse d'abord la parole à Madame Sophie Mungar.
Monsieur le délégué de la Fondation des Ponts, je le cherche des yeux, cher Louis-Michel. Monsieur le président de Pont Alumni, cher Olivier, il va nous rejoindre. Cher directeur de master, chers collègues, et mesdames et messieurs les étudiants et futurs diplômés avant tout. C'est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui, avec Marie-Mathieu Pruvot, la directrice de l'enseignement, avec Jacques Grandjean, le directeur du pôle des masters spécialisés dans cet amphicaco pour notre cérémonie de remise de diplôme. Alors bien sûr, c'est un moment solennel pour vous, parce que cette cérémonie marque une étape importante, l'achèvement d'une étape importante, essentielle dans votre vie professionnelle. Elle couronne vos efforts, les progrès que vous avez accomplis et votre succès. Et donc je veux vous féliciter chaleureusement et très sincèrement. Je suis heureuse d'accueillir également vos proches, tous ceux qui vous ont soutenu tout au long de cette formation, qui ont été à vos côtés. Ils ont pu parfois, je l'espère pas trop, subir un peu, indirectement, le stress qui a été généré par un apprentissage nouveau, par une remise en question du projet professionnel que vous avez porté. Et ils vous ont, je crois, aidé à concilier trois vies, une vie professionnelle, une vie personnelle et une vie que je qualifierais entre guillemets de scolaire. Je crois que nous pouvons les associer, vous en serez d'accord, j'en suis sûre, à ces félicitations. Alors vous rejoignez la famille des masteriens diplômés de l'école des Ponts, ParisTech, et les alumni. Et cette famille s'enrichit chaque année. Aujourd'hui, vous êtes 177 nouveaux diplômés. Quelques mots pour dire qui vous êtes, évidemment pas individuellement, sinon on en aurait pour un moment. Juste peut-être indiquer, 37% de femmes, c'est un bon taux de féminisation. On a encore des marges de progrès. Mais voilà, c'est important. Et deuxième volet, une vraie diversité dans vos parcours, mais aussi une diversité dans vos origines, avec 45% d'étudiants internationaux. J'ai regardé la liste que Jacques a eu la gentillesse de me transmettre. 26 pays, j'en citerai quelques-uns. On a la Côte d'Ivoire, l'Australie, la Chine, les États-Unis, l'Inde, Madagascar, le Maroc, la Colombie, bien sûr l'Union européenne. So, if you allow me, I will switch to English for a few words for our students who mainly speak English, but I'm sure, I hope, they took advantage of their stay here to learn some French. It is with great pleasure that I join today Marie-Mathieu Pruvot, Director of Education, and Jacques Grandjean, Director for the Department of Advanced Masters, for this graduation ceremony. It is a solemn moment for you, because this ceremony marks the completion of an essential step in your professional life, and it crowns your efforts, the progress you made, and also your success. So I want to congratulate you warmly and sincerely. And the Advanced Masters were not only a training, but also a life of experience. So I believe we can join in these congratulations those who support you throughout this training program, as they may have sometimes, but I hope not too much, indirectly support the stress generated by your situation, and I'm sure they helped to reconcile a professional life, a personal life, and a training life. Back to French. Vous êtes porteur de l'image de ce diplôme qui ponctue une formation de haut niveau, de grande qualité, en prise avec les besoins des entreprises, plus globalement, je dirais, les besoins de notre pays en ingénieurs et cadres à haut potentiel. L'École des Ponts a en effet vocation à servir 4 orientations stratégiques, former de très bons ingénieurs, en formation initiale, mais aussi tout au long de la vie, des ingénieurs investis dans la transition écologique et énergétique. Deuxième orientation, viser l'excellence académique de nos formations et de notre recherche. Mais c'est également construire un pôle francilien à visibilité mondiale sur le champ de la ville avec nos partenaires de la Cité des Cartes en portant ensemble le projet d'ICIT qui s'appelle Futur. Enfin, et je crois que c'est essentiel, construire un modèle économique soutenable. Pour ce qui est des 2 premières orientations, certes, l'école a pour elle son passé depuis 1747 et le témoignage de nombreux grands anciens. Mais aujourd'hui, elle doit continuer à faire preuve de sa capacité à anticiper les besoins du monde socio-économique en constante évolution. Pour y répondre, savoir s'adapter et évoluer notamment dans ses méthodes pédagogiques, s'enrichir grâce aux approches multidisciplinaires, à l'internationalisation qui l'ouvre sur d'autres cultures et modes de pensée et raisonnement. L'offre de formation que propose l'école, notamment par les masters spécialisés, que vous avez suivi, est une illustration de ces capacités de l'école. Je vais citer quelques exemples. Le lancement des masters spécialisés BIM, Design by Data, par exemple, Smart Mobility plus récemment, pour la prise en compte du numérique. Le développement durable à travers les champs de compétences dont l'école dispose, avec un portefeuille de formation sur la ville, l'aménagement, les transports, les grands ouvrages, l'énergie, tous sujets qui sont au cœur des attentes des entreprises, mais aussi des préoccupations de notre société, que sont la transition écologique et énergétique. Mais vous le savez, le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche est dans un contexte d'une concurrence mondialisée, ce qui invite l'école à s'interroger régulièrement, à réinterroger régulièrement ses formations dans leur contenu et dans leur modalité. Et j'en veux pour preuve les réflexions que nous engageons sur les masters liés à l'aménagement et l'urbanisme pour toujours être au top. Les perspectives à venir sont riches, les projets enthousiasmants, que ce soit sur le pilotage des grands projets de la transition énergétique ou par exemple le Master of Science IDCBA, ou sur l'introduction du numérique dans les modalités de formation, nous en parlions il y a 2 jours avec Marie et Jacques. L'objectif de l'école, c'est également d'obtenir un label École du numérique. L'école fait preuve de dynamisme, fait preuve d'ouverture sur l'entreprise et sur l'innovation, à travers une offre de formation élargie, et je citerai pour l'illustrer le design thinking, mais aussi l'accompagnement qui a été mis en place auprès des étudiants entrepreneurs. En 2 ans, ils sont passés de 2 à une trentaine. L'appui aux start-up, dont certaines, grâce à l'appui de la Fondation et de Pont Alumni, sont hébergées à Station F, et ici à la Green Tech. Cette relation particulière de l'école avec le monde socio-économique, elle est aussi vitale au regard du modèle économique de l'école. Vous le savez, la contrainte sur les finances publiques n'a pas épargné le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et ces contraintes, notre ministère de tutelle, les répercute sur l'école à travers la subvention pour contribution aux services publics qui diminue. Dès lors, l'école se doit de développer ses ressources propres pour pouvoir accompagner ses projets et son développement. Et ça se fait à travers les formations que nous dispensons et la valorisation de notre recherche. Je voudrais à ce moment saluer l'ensemble des entreprises partenaires de l'école qui nous accompagnent et qui permettent notamment le développement de notre offre de formation à travers les masters spécialisés. Je ne vais pas les citer toutes, mais vous les voyez à l'écran. Je risquerais sinon d'en oublier, mais je veux vraiment les remercier de la confiance qu'elles font à nos écoles pour répondre à leurs besoins de compétences. Je salue également nos partenaires académiques, le IVP, le STP, Centrale Supélec, le NTPE, l'UTC, l'ENSIAM, l'AFTRAL, le CSTB, le NSG, l'ENSA-M, l'ENSA Toulouse et l'ENSA Val-de-Seine, avec lesquels nous déployons ces formations de grande qualité. Et bien sûr, je veux donner un coup de chapeau à celles et ceux qui contribuent de près ou de loin à ces formations. L'ensemble de l'équipe du pôle des masters spécialisés sous la houlette de Jacques Grandjean, les équipes pédagogiques, les directeurs de nos masters, les responsables académiques, les inspectrices des études, les assistantes, et bien sûr l'ensemble des enseignants, professionnels et chercheurs qui s'impliquent dans ces formations et qui s'assurent au quotidien de leur bonne réalisation. Je sais qu'ils ont eu plaisir à vous connaître et vous accompagner dans la réussite de votre projet. Je voudrais finir ces quelques propos en vous disant que ce diplôme que vous allez recevoir dans quelques minutes vous honore et que ce diplôme vous oblige. Mettez en œuvre les compétences que vous avez acquises, complexité, intégration, système, pluridisciplinarité, management. Vos compétences, ce sont aussi celles du savoir-être, acquises ou enrichies à travers votre formation. Soyez porteurs des valeurs de l'école et de ses alumni. Il vous appartient désormais d'y être fidèles et d'en être les ambassadeurs. L'école compte sur vous. Enfin, avec ce diplôme, vous emportez avec vous, dans votre aventure professionnelle et personnelle, à venir, finalement, un peu de toutes celles et ceux qui vous ont accompagnés et tant appris, et je sais que vous saurez en être digne. Très sincères félicitations aux nouveaux diplômés. Merci.
Alors, à mon tour de vous saluer et de vous dire qu'en tant que directrice de l'enseignement, je suis très heureuse d'être parmi vous cet après-midi. Et que, parce que même si je ne vois pas beaucoup au quotidien les élèves mastériens, je tiens à ce que vous sachiez que la formation continue a une grande place dans l'école. Et elle interroge des contenus et provoque des expérimentations pédagogiques qui rayonnent sur toutes les autres formations de l'école, et notamment sur la formation initiale. Nous avons aujourd'hui 14 masters spécialisés dans l'école. Ce sont des formations à plein temps ou à temps partiel. Et nous diplômerons aujourd'hui des mastériens issus de 10 formations, les autres n'étant pas encore prêts à être diplômés. Il faut rappeler que ces formations sont raccrochées à 4 des 6 départements de spécialité du cursus d'ingénieur de l'École des Ponts, génie civil et construction, génie mécanique et matériaux, génie industriel, sciences, économie, gestion, finance et ville, environnement, transport. Nous avons la chance d'avoir de nombreux partenaires industriels, comme l'a rappelé Sophie Mougard, et des partenaires aussi académiques de haut niveau pour accomplir cette mission, car sans eux, ce pôle de formation continue ne pourrait pas exister. Pour parler d'expérimentation pédagogique, qui bien sûr servent un contenu, prenons quelques exemples. C'est dans le Master Amur que l'école a commencé à travailler sur l'accompagnement et la planification de grands projets, comme peut l'être aujourd'hui le Grand Paris. C'est dans le Master Système de transport ferroviaire et urbain que l'école a conduit aux côtés des professionnels ses premiers trains électriques. Enfin, je fais référence aux maquettes de travail qui permettent notamment les simulations de crise. C'est dans le Master BIM que l'école a créé ses premiers cours à distance, de plateformes d'échange aussi pour les enseignants et les apprenants. C'est dans le Master Design by Data que l'école modélise et va construire avec des robots constructifs présents dans les laboratoires de recherche de l'école des maquettes à l'échelle 1. C'est dans le Master Smart City que le design thinking porté par notre D-School a été expérimenté, pas seulement sur des objets, mais sur un territoire. C'est dans le Master Immobilier et Bâtiment Durable que l'on a construit une culture commune à tous les acteurs de la construction, qu'ils soient financeurs, maîtres d'ouvrage, concepteurs, constructeurs, industriels, gestionnaires ou utilisateurs. C'est dans le Master Génie Civil des Grands Ouvrages pour l'énergie que l'on prépare la transition énergétique des territoires en travaillant sur les nouvelles énergies. C'est dans le Master Génie Civil européen qu'à partir de nombreuses visites, on appréhende sur le terrain les grands ouvrages de génie civil et que l'on comprend les calculs avancés et complexes qui ont permis de les construire. C'est dans le Master Supply Chain Design et Management que l'on a commencé à entrevoir les enjeux de l'industrie du futur. et des futures usines 4.0, pardon. C'est dans le master infrastructure, projet, finance qu'en anglais, on a commencé à apprendre les mécanismes de financement pour projeter et mettre en œuvre des projets d'infrastructure. C'est dans le master Smart Mobility qui a ouvert cette année que l'on va réfléchir à toutes les mobilités intelligentes. Bref, nous avons élaboré des programmes de formation que nous savons performants et attendus par le monde économique et qui permettent à de nombreux masteriens de s'insérer mieux dans la vie professionnelle ou bien d'évoluer dans leur poste initial ou bien de modifier leur parcours professionnel. Et puis, il y a vous. Vous que je voudrais féliciter, vous les apprenants, vous êtes porteurs de pugnacité, d'engagement, de mérite. Vous venez d'horizons divers en France et à l'international. Vous êtes à différents stades de votre vie professionnelle. Vos motivations sont différentes, elles aussi. Complément d'études, spécialisation, reconversion. Vos identités et vos particularités forment des groupes d'hommes et de femmes qui apprennent à travailler ensemble et à chercher le meilleur de chacun pour valoriser le travail de groupe. Vous ressortez grandi de cette expérience. Vos qualités et vos engagements, portés par des équipes d'enseignants investis, enrichissent la vie et l'offre de formation de l'école. Vous l'avez remarqué, Sophie l'a mentionné, pour que cela fonctionne, nous avons des équipes administratives et pédagogiques qui se mettent à votre disposition et qui, avec passion, vous accompagnent. Je souhaiterais les remercier avec votre aide et les appeler sur scène, mais tout d'abord, je voudrais, parce que c'est un jour particulier aujourd'hui, appeler Jacques Grandjean, à qui je voudrais que l'on accorde une place particulière. C'est lui qui a su développer au sein de l'école ces dernières années le pôle master spécialisé, sachant saisir les opportunités de création de formation, sachant aussi anticiper sur les futurs métiers, mais aussi sentir le vent de ce qui va se développer, avec souvent un temps d'avance. Il a su saisir des réseaux, les faire fonctionner, se les approprier, trouver les professionnels adéquats pour construire et diriger ces formations. C'est sa dernière remise de diplôme de master spécialisé sur scène, puisque bien sûr il sera invité et pourra revenir quand il veut, puisqu'il part cet été pour de nouvelles aventures personnelles et professionnelles. Merci Jacques pour ton implication et tes idées prolixes. Donc, je voudrais en profiter pour qu'on fasse une photo avec toutes les équipes qui accompagnent Jacques au quotidien ou un peu plus, de façon un peu plus lointaine. Donc, à ses côtés, il y a quatre personnes très actives, Albertine, Soazic, Stéphanie, dont les actions de communication et de marketing sont très précieuses, aux côtés d'Océane. Je voudrais qu'elle rejoigne Jacques. On va faire une photo de groupe. Et puis, il y a... À la direction de l'enseignement, le bureau de la vie étudiante, la mission scolarité, le S2IP, Gaëtan que je vois là-bas pour la direction de l'enseignement. Tu peux descendre Gaëtan, le département langues et cultures. Il y a aussi l'implication d'autres directions, la direction des relations internationales et des relations entreprises, la direction de la documentation, des archives et du patrimoine qui a mis à votre disposition d'abord une bibliothèque et depuis peu un learning center. Et il y a bien sûr les directeurs que j'appelle à venir de chaque master qui souvent, en plus d'être professionnels en exercice ou chercheurs, prennent cette charge de formation à cœur et avec leurs collaborateurs, ils arrivent à créer tout ce qui vous est proposé. Donc j'appelle pour le master Amur, Jacques Aubrac de la Perrière, Soulavia de Noza. Pour le master génie civil européen, Robert Leroy et Aphrodite Michali et Christine Gomez. Pour le génie civil des grands ouvrages pour l'énergie, Xavier Dubois et Michel Guérinet et encore Christine Gomez. Pour supply chain design et management, Michel Nacla et Florence Bonafou. Pour Ingénierie et Management des Smart Cities, Thierry Simoulin et Soulania. Pour Immobilier et Bâtiments Durables, Jean Carassus et Céline Bois. Et puis, et je crois qu'il y a Selma Abbas aussi qui vient, mais qui vient aussi sur un autre master. Pour le système des transports ferroviaires et urbains, Françoise Mandersheim et Chantal Grandas. Pour Design by Data, j'appelle Francesco Cingolani et Selma Abbas. Pour infrastructure projet finance, j'appelle Georges Debanne et Mathieu Musabar. Pour BIM, j'appelle Catherine Maillet, Olivier Selnick et Céline Bois. Et puis, j'appelle aussi pour tout le monde Sandra Sandoval. Allez! Voilà une belle équipe, donc vous saurez l'apprécier. Donc je pense que pour Jacques, c'est important d'avoir toute cette équipe autour de lui, et donc un grand bravo. Alors, je voulais vous rappeler que, effectivement, votre diplôme a beaucoup de valeur. J'espère qu'il va vous permettre d'atteindre vos objectifs personnels et professionnels dans un monde où la formation tout au long de la vie s'avère nécessaire, dans une société où notamment l'ère du numérique est en train d'opérer des modifications profondes, et dans un monde international où le déséquilibre en ressources et en développement est de plus en plus évident. Je vous souhaite de trouver votre place, de continuer à vous former tout au long de votre vie professionnelle, de rester attentif et performant et de favoriser le travail d'équipe en réseau. Il vous faut aussi garder le contact avec nous au travers de l'Association des Anciens, Pont Alliance, et continuer à faire vivre les groupes pluridisciplinaires auxquels vous avez participé et les associations par master qui fonctionnent déjà et qui constituent un réseau formidable. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très belle cérémonie.
Bien, en tout cas, ben, merci d'abord pour ces hommages, ces reconnaissances. Donc moi, j'ai un message complémentaire hein, à ceux qui viennent de vous être transmis. C'est simplement mettre l'accent sur votre expérience, hein, une expérience d'une année, une année et demie, voire deux ans, hein, donc pendant cette formation-là. Et donc, je pense que c'est le moment, cette cérémonie, de mesurer le chemin parcouru, hein, c'est-à-dire mesurer comment, en fait, cette formation a été plus qu'une formation, c'est-à-dire une transformation aussi. Transformation, évidemment, dans vos projets professionnels, transformation aussi dans votre façon de travailler en groupe, transformation liée aussi aux évolutions professionnelles, à vos projets professionnels, à vos places différentes que vous avez prises, que vous allez prendre dans les entreprises. C'est une transformation. Et que ces changements, en fait, ils se sont vécus, pour certains, d'une façon silencieuse, c'est une transformation silencieuse, et pour d'autres, c'était une transformation un peu agitée. Je fais référence à certains retours d'expérience, on va dire, de ce qui s'est passé dans certains masters, en particulier dans les travaux de groupe, dans les équipes projets, où effectivement, il y a eu une certaine, on va dire, rugosité qui s'est exprimée, en particulier liée aux différences culturelles, pas seulement liées aux différences culturelles liées aux 29 nationalités présentes, mais aussi aux différences de culture métier entre les architectes, les ingénieurs, les économistes, les urbanistes, etc. Enfin voilà, je crois que vous arrivez à bien saisir de quoi il s'agit. Et puis c'est aussi une différence liée, différence culturelle liée aussi aux âges. Vous représentez en fait, il y a toute la gamme de 21 ans à 55 ans présent en fait dans ces formations. Et voilà, et aussi évidemment avec vos expériences liées à vos expériences professionnelles. Donc voilà, un chemin de transformation. Et c'est important de savoir que ce chemin de transformation, vous l'avez fait avec d'autres, et par les autres, et pour les autres, au sein d'une communauté apprenante. C'est-à-dire que, vous l'avez bien compris, au travers effectivement de cette expérience-là, vous avez autant appris les uns des autres que parfois en fait des enseignants. Et que ça, c'est une dimension très importante de ces masters-là. Et donc c'est à cultiver, évidemment, au travers de vos réseaux futurs. C'est une formation, transformation creusée, où chaque masterien, enseignant, financeur, membre des équipes pédagogiques, investit de son désir. Désir d'apprendre, désir de partager, désir de transmettre, désir d'innover, désir d'investir, désir d'accompagner. Voilà. C'est un lieu, c'est une plateforme en fait, de rencontre, donc c'est master spécialisé. Évidemment, des liens se sont créés, Et à vous, comme on vous l'a dit, à vous de les faire vivre, comme vos prédécesseurs l'ont fait au travers d'associations, de rencontres, d'événements, de réseaux, etc. Nos liens ne vont pas s'arrêter ce soir. Ils se transforment aussi. Vous n'êtes plus seulement des élèves, vous devenez des partenaires, co-constructeurs de l'avenir de votre formation. Donc, une première occasion que je vais vous livrer maintenant, de conserver des liens avec l'école, ce sera de répondre aux enquêtes d'insertion. Parce que dans quelques mois, vous allez être sollicité plusieurs fois, en tout cas dans un avenir relativement proche, pour répondre à ces enquêtes d'insertion. Donc c'est très important pour nous, pour en fait la certification, pour le référencement de vos formations. Et donc je sais que les équipes pédagogiques ont toujours un peu de mal à relancer en fait les anciens dès qu'ils sont sortis de ces locaux-là. Donc voilà, je soutiens en fait cette démarche-là qui est vraiment très importante et de plus en plus importante dans le cadre de la formation professionnelle en France aujourd'hui. Voilà. Donc je partage cette émotion. Et grâce à vous, je mesure aussi tout le chemin fait aussi par l'ensemble des formations et des masters spécialisés au sein de l'école. Voilà, donc je remercie évidemment tout le monde, tous ceux qui contribuent au quotidien à vous accompagner aussi dans cette belle aventure.
Donc je suis Jacques Jobrac, donc pour le master à Mur. Je suis très heureux d'ouvrir cette remise des diplômes en accueillant les 19 étudiants de la promotion à Mur 2016-2017. C'est ma première promotion depuis que j'ai hérité de la direction du master et je suis donc très fier et très satisfait de cette première année, réussie grâce à votre travail et à votre engagement dans ce cycle de formation professionnelle de 16 mois. 16 mois qui ont été bien remplis avec près de 500 heures d'enseignement et près du double pour les projets de fin d'études, au cours duquel vous avez traversé successivement un enseignement théorique et pratique structuré autour des conférences et de travaux dirigés, orienté vers les métiers de la maîtrise d'ouvrage urbaine et de l'aménagement opérationnel. Vous avez en parallèle pratiqué l'exercice du projet qui est au cœur des métiers vers lesquels vous vous destinez, le projet vu sous l'angle de la maîtrise d'ouvrage nécessitant donc de comprendre les mécanismes de conception de la maîtrise d'œuvre urbaine, mais également tous les ressorts et enjeux institutionnels, financiers, réglementaires et politiques qui concourent à construire une stratégie de développement territorial dans le temps. Vous avez pu observer les pratiques de l'aménagement en Île-de-France et en région et comparer avec ce qui se fait ailleurs, au Japon particulièrement, où vous avez passé 2 semaines intensives et appris à adapter votre regard pour construire des propositions françaises qui soient pertinentes ou bien même impertinentes parfois pour des aménageurs japonais. Enfin, vous avez été placé en situation de bureau d'études pour le compte de commanditaires majeurs du paysage de l'aménagement, le bureau d'études AREP, qui vous a pris en sous-traitance pour une mission sur le difficile territoire de la Seigna dans le Val-de-Marne, en parallèle de la consultation Inventons la métropole, la RATP, pour laquelle vous avez produit un rapport sur les conditions d'une meilleure insertion urbaine et immobilière des gares routières, je pense que Madame Mougard en sera sensible, mémoire qui fait déjà référence et que nous allons essayer d'appliquer sur certains sites intenses du territoire de Paris-Est, Marne et Bois. La métropole de Rouen, pour laquelle vous avez réalisé un diagnostic urbain fouillé et construit une stratégie multipolaire décoiffante qui a reçu un accueil très enthousiaste des élus de la métropole. Et puis enfin, la Société du Grand Paris qui vous a confié une étude d'opportunité sur les développements d'un secteur d'aménagement autour de l'ouvrage d'entonnement de la ligne 16, dont les récentes déclarations du Premier ministre rappelaient l'importance pour la desserte des sites des Jeux Olympiques de 2024. Vous voici donc frais et moulus du plus ancien master de l'école des Ponts et Chaussées qui devrait connaître au cours des 2 prochaines années une réforme importante avec un rapprochement avec les masters Smart City et Urbantique, permettant un élargissement des disciplines et des effectifs et une meilleure visibilité dans le paysage des masters orientés ville. Vous êtes à présent lancé à vive allure sur le marché du travail, puisque je crois la plupart d'entre vous ont été embauchés dès la sortie du master ou sont en voie de l'être. Vous êtes issus de formations diverses, ingénieurs, architectes, géographes, économistes, politistes, juristes. La promotion que vous avez formée traduit la diversité des cultures et des métiers de la ville. Pour les cultures, l'Algérie a été oubliée, ce que je regrette. J'y suis très, oui, Et nous avons donc... C'est un pays qui m'est cher, donc voilà pourquoi je le rappelle. Donc vous êtes tous intelligents, travailleurs, souvent brillants, mais n'oubliez jamais ce que l'enseignement pluridisciplinaire vous a apporté. C'est en étant à l'écoute des autres, comme le disait Jacques, dans un travail coopératif et interactif, que vous avez produit le meilleur. La ville est un torrent qui submerge les professionnels isolés, mais canalisé par des équipes d'aménageurs urbanistes éclairés et soudés, elle peut devenir un magnifique fleuve tranquille. Soulania, notre inspectrice des études préférée, se joint à moi pour vous dire une nouvelle fois bravo et merci d'avoir donné toutes vos forces et votre enthousiasme, ainsi que vos convictions dans cette entreprise à Mur. N'oubliez pas de participer à l'animation du réseau Urbapon, qui, comme vous le savez, s'appuie largement sur les jeunes diplômés. Bravo. Merci.
Bonjour à tous, Robert Leroy, je suis depuis cette année le nouveau directeur du Master Génie Civil Européen. Je salue Roger Franck, qui est l'ancien directeur qui est quelque part dans la salle et que je remercie chaleureusement pour tout le travail qu'il a réalisé pour préserver le haut niveau de ce Master. Alors, j'ai préparé une petite présentation sur le métier de génie civil parce que peut-être on croit le connaître mais on ne le connaît pas tout à fait. En tout cas, ces évolutions récentes méritent d'être soulignées et j'ai décidé de faire un petit focus sur un des aspects du métier de génie civil qui est que l'ingénieur génie civil est aussi un éco-concepteur. Alors, l'éco-conception, c'est un terme nouveau, mais l'idée est très ancienne finalement puisque j'aime bien faire des retours dans l'histoire. Nous avons un ingénieur très célèbre français qui a construit de nombreux ponts et d'autres structures qui s'appelle Eugène Fraissinet, qui est notre maître à tous quand on est ingénieur génie civil. Et ben, lui, au début du XXe siècle, c'était déjà un éco-concepteur, c'est-à-dire qu'il construisait avec peu, il utilisait parcimonieusement la matière, comme on peut dire. Son premier poste à Moulins, au centre de la France, consistait à concevoir et construire un certain nombre de ponts, et il s'était donné comme mission de construire deux ponts pour le prix d'un. Donc c'était déjà le début de l'utilisation de la matière avec une idée de la conception qui, comme vous pouvez le voir, cherchait à minimiser de manière extrême l'utilisation du matériau par des principes structurels audacieux. Alors, nous sommes dans cette lignée de ce que certains industriels appellent aujourd'hui l'ingénierie frugale. L'ingénierie frugale, elle existe déjà depuis très longtemps dans le génie civil, finalement. Alors, si on fait une projection, on avance dans le temps, qu'on arrive à la fin du XXe siècle, finalement, c'est pas les idées de conception qui ont primé, mais c'est l'usage de nouveaux matériaux. Par exemple, ici, vous avez une conception en bas qui est comparée à celle d'une conception traditionnelle. La différence, c'est que le matériau du pont qui est en bas est un béton de très haute résistance, béton qui apparaît dans les années 90 et qui a donné des idées à des ingénieurs. Ici, c'est le résultat d'un concours où une entreprise a proposé ce pont extrêmement fin. Il porte les mêmes charges que celui du haut, mais il contient deux fois moins de matière. Alors, est-ce que c'est de l'éco-conception ? C'est ce qu'on s'attache à montrer aux étudiants. En tout cas, c'est eux qui font ce travail dans le cadre de projet où, en incluant le matériau dans la structure, on fait un bilan à l'échelle de l'ouvrage et on regarde si les impacts environnementaux sont au bénéfice de la haute résistance. Alors, utiliser moins de matière, c'est un axe. Utiliser d'autres matériaux, c'est aussi une direction très intéressante et on est amené à réfléchir avec des matériaux renouvelables, c'est-à-dire on puise un peu moins sur la planète, et un des matériaux de prédilection qui se développe actuellement dans certains cours du master, c'est l'usage du bois. Alors avec le bois, on peut construire de petits bâtiments, mais la question c'est, est-ce que l'ingénieur génie civil qui a l'habitude de construire des grosses structures peut s'accaparer ce matériau et construire des beaux objets, des belles structures? Alors, malheureusement, nos diplômés de cette année n'ont pas eu la chance de suivre ce cours, mais cette année, il y a un nouveau cours qui a été lancé sur les structures bois. Et un mini-projet a consisté à étudier ce qu'on appelle le plan B de l'Arche de la Défense. Alors le plan B, vous l'avez compris, c'est le plan bois, ou alors le plan B, on revisite l'Arche en béton et on la construit en bois. Alors ça nécessite de la modélisation, donc ça c'est une modélisation d'une structure bois. Donc je peux vous dire que ça marche, hein. Les poutres elles font 11 mètres de haut, mais on peut construire l'Arche de la Défense en bois. Donc dans la formation des étudiants de master, il y a la partie modélisation et puis il y a la partie dimensionnement, c'est-à-dire qu'on sollicite la structure et on regarde est-ce qu'elle tient et on regarde est-ce qu'elle se déforme sous l'action de différentes actions. Voilà. Donc le dimensionnement se fait par des outils modernes, numériques, mais c'est aussi, je ne dis pas la règle à calcul parce que plus personne ne sait s'en servir, mais la calculatrice. Hein. La vérification, c'est la calculatrice. Alors, on modélise, on conçoit, on dimensionne, on calcule, mais en génie civil, il y a toujours la question du chantier. Et le chantier, c'est le recours à des méthodes de construction qui souvent sont en lien avec la conception, c'est-à-dire que la méthode de réalisation peut influencer la conception de l'ouvrage, c'est le cas pour plein d'ouvrages. Donc cette image d'un chantier, ça nous rappelle ça, elle dit autre chose aussi, c'est le génie civil, c'est un travail d'équipe, et c'est ce qui fait une des qualités et qui fait que beaucoup d'ingénieurs aiment vraiment leur métier, c'est qu'il y a une équipe qui travaille et un lien entre le bureau d'études et le chantier est absolument nécessaire. Bon, ici c'est un pont à béquille qui utilise encore un autre matériau, un béton ultra performant, très récent, et qui se retrouve dans différentes structures comme le MUSEM à Marseille, etc. Voilà, alors, il faut que j'aille vite, hein, le programme du master s'appuie, vous avez compris, sur l'histoire de l'ingénierie civile et tous nos ancêtres concepteurs géniaux qui ont fait de l'innovation, mais on s'intéresse à prendre en compte dans l'enseignement ces nouveaux défis auxquels sont exposés les ingénieurs d'aujourd'hui. Alors, ça c'est possible parce qu'on actualise nos enseignements grâce aux passerelles qui existent avec le département génie civil, et tous les nouveaux cours de l'enseignement initial des ingénieurs de l'école des ponts sont rendus accessibles aux masteriens. Voilà, alors un mot des impétrants, hein, des diplômables, des diplômés, des futurs diplômés d'aujourd'hui. Donc on a une population cosmopolite, 19 étudiants qui vont être donc diplômés. Alors je ne connais pas tous les pays d'origine par cœur, évidemment nous avons un Français, nous avons des étudiants, on peut l'applaudir. Il va falloir qu'on travaille ça. Alors, voilà, oui, nous avons des étudiants libanais, marocains. Oui, le Liban est bien représenté par 6 étudiants, ensuite le Maroc par 5 étudiants, la Tunisie, 3 étudiants, le Sénégal, le Togo, le Bénin, donc l'Afrique de l'Ouest, et puis l'Amérique, la Colombie et le Venezuela. Voilà, alors je félicite sincèrement tous ces étudiants pour l'effort qu'ils ont produit pour atteindre ce niveau que j'estime de haut niveau dans le domaine de l'ingénierie civile. Je le souhaite bon vent et la bienvenue dans le métier de génie civil. Je reprends la demande aussi de Jacques Grandjean qui est que il faut que vous remplissiez les études d'enquête et qu'on sache où vous êtes et ce que vous faites, parce que c'est très important pour nous pour faire vivre le master. Alors j'ai appris tout à l'heure officieusement que l'ensemble des étudiants avaient trouvé un travail, donc si cette information est avérée, c'est vraiment absolument génial. Voilà, merci à tous.
Bonjour à tous. Donc on va enchaîner avec le master spécialisé génie civil des grands ouvrages pour l'énergie. Que je dirige avec l'aide de Michel Guérinet et de Brice Bossan. C'est un master spécialisé qui a deux particularités. La première particularité, c'est qu'il est très soutenu par les entreprises. On a 5 entreprises partenaires qui sont très actifs dans la formation et qui interviennent via les fondations pour aider les étudiants. Donc EDF, Aegis Industrie, EFAS Génie Civil, CETEC TPI et ENGIE via Tractebel Engineering. Donc ce sont des entreprises qui sont actives, à la fois donc, dans les aides qu'elles procurent, mais aussi dans les enseignements, puisque les entreprises viennent assurer des cours, ce qui nous permet d'avoir un lien étroit avec les entreprises majeures du secteur. Et l'autre particularité de ce master spécialisé par rapport aux autres que vous voyez aujourd'hui, c'est qu'on est cohabilité avec une autre école, une prestigieuse partenaire qui est Centrale Supélec. Donc nos étudiants suivent la moitié de leurs enseignements ici à l'école des Ponts et l'autre moitié à l'école Centrale Supélec, ce qui n'est pas sans causer quelques petites difficultés de transport puisque maintenant Centrale Supélec est sur le plateau de Saclay. Donc ils ont bien voyagé en Ile-de-France en plus. Donc nos objectifs, c'est de former au pilotage de la conception et de la construction des grands ouvrages pour l'énergie. Donc on fait plein de cours de calcul, de management de projet. Je pense que ça, c'est tout ce qu'on leur a donné, je dirais, pour continuer à se former et développer leurs compétences. Donc ils ont réussi à je pense, développer vraiment des capacités très fortes en maîtrise de toutes les étapes du cycle de conception et de réalisation d'un ouvrage, des aptitudes aussi à l'évaluation des impacts environnementaux et des risques, puisque nos ouvrages sont des ouvrages qui ont des risques très spécifiques. Donc, au niveau des débouchés, on les a mis. Je pense que ce qui est surtout important à retenir, c'est qu'ils ont tous trouvé un emploi avant la remise de leur diplôme. Donc ça, je les félicite tous, hein. Ça, c'est, je pense, un signe très marquant de la qualité de la formation et de l'adéquation de cette formation avec les attentes des entreprises. Je pense aussi qu'ils ont eu des emplois qu'ils n'auraient pas eu du tout, ou ils n'auraient pas du tout cette opportunité s'ils n'avaient pas suivi cette formation. Et je pense que c'est ça le plus important, donc on va y passer un peu plus de temps. C'était une petite promotion, vous n'étiez que 13-14. Moi je retiens ça puisque c'est ça que vous avez apporté je pense pendant cette année et demie, une promotion très mixte, on est à peu près à 50% de filles, 50% de garçons et ça c'est très bien. Vous avez été travailleurs, vous avez vraiment beaucoup donné de votre temps, de votre énergie dans cette année de formation, vous avez été curieux, tous vos enseignants nous ont dit ils posent plein de questions, ils s'intéressent, j'arrive pas à avancer dans mon cours parce qu'ils n'arrêtent pas de poser des questions. C'est ce qu'on vous avait dit de faire, vous avez bien fait, vous avez cherché à apprendre par vous-même. Vous êtes montré aussi très soudé. Alors à travers les visites qu'on a pu faire, que ce soit au laboratoire de Grenoble d'Artelia, que ce soit lors de la visite du barrage du Bimont, on vous a emmené vous balader sur le site d'ITER, on vous a emmené à Flamanville, on vous a emmené visiter l'Andra et le stockage de déchets, on vous a emmené à la journée du comité français des grands barrages. Et vous avez une promotion très soudée, vous avez été une promotion excessivement sympathique, en plus d'être travailleur. Je pense que vous allez partir avec un diplôme, vous allez partir avec je dirais, la grande famille des alumni de l'école des Ponts et de l'école centrale Supélec, mais vous allez aussi et surtout partir avec une promotion très soudée, très connectée, et je pense des amis et des collaborateurs et des collègues pour les années à venir, et c'est, je pense, le plus important encore pour vous. Donc, je ne vais pas faire plus long, je vais vous remercier et je vais passer au moment le plus important, qui est la remise de votre diplôme. Oh,
J'y vais. Bonjour à tous. Écoutez, je vais vous parler du Master Supply Chain Design and Management que je co-dirige avec ma collègue Florence Bonafou, ici présente, que je remercie. Alors, je reviendrai sur la définition de la supply parce que souvent on dit « mais c'est quoi cet objet-là » Je pense que Jacques, tout à l'heure, avait déjà commencé par donner une définition, sans le vouloir, quand il a dit « ben voilà, on a du papier, Clairefontaine, on le fabrique au Maroc, on le fait venir, etc. » Et il était déjà en train de parler de la supply. Mais je reviendrai dessus après. Donc, le master, c'est un master en partenariat, on va dire, avec l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et avec l'AFTRAL, représenté donc par ma collègue. Alors, ce master date de 1995, il a changé plusieurs fois de nom pour s'adapter bien sûr aux questions d'actualité. Son cousin ou l'équivalent se trouve à Lausanne. Les deux masters fonctionnent, on va dire, en parallèle, modulaires, échangeables, etc. Donc c'est une dimension internationale assez intéressante qu'on a dans ce master. Alors, avant d'arriver à la question de la supply, je m'en doutais un peu, je me disais, tiens, il y a des photos sur les ponts, etc. Nous, on parle de la supply, à quel moment on parle aussi des ponts? Donc, j'ai trouvé un pont, celui-là. Donc, c'est à Dublin, qui s'appelle le Broom Bridge à Dublin. Qu'est-ce qu'il a de particulier? J'en sais rien. Je ne porterai aucun jugement sur l'esthétique de ce pont. Mais si vous allez un jour le visiter, bon, il se trouve dans un endroit un petit peu perdu, au nord, au nord-ouest de Dublin. Ce qu'il a de particulier, vous voyez, il y a une petite plaque en haut à gauche qui est intéressante. Si je l'agrandis, on ne voit toujours pas grand-chose. Et si je l'agrandis, on commence déjà à lire un certain nombre de choses là-dedans. C'est un certain Hamilton, William Rowan Hamilton, un physicien, qui à l'époque, vous voyez, on est dans les années 1800, il se baladait le long du canal, et puis il avait pensé à une formule de ce qu'on appelle les quaternions, c'est-à-dire les nombres complexes en trois dimensions, et pour se souvenir de sa trouvaille, il a gravé ça sur ce pont. Et donc la plaque, tout simplement, indique l'endroit où il a inscrit cette formule-là. Alors pour les connaisseurs, ça veut dire que c'est i carré égale moins 1 égale j au carré égale k au carré, c'est-à-dire ijk égale moins 1. Donc, notre ami Hamilton, c'est lui, c'est un physicien. Vous allez me dire, mais quel lien avec la logistique, avec la supply? Ben, regardez sur ce timbre, donc vous avez la formule qu'il a gravée, mais vous avez un petit dessin derrière. Celui-là, il est très important. Donc, c'est ce qu'on appelle le dessin d'Hamilton ou le jeu d'Hamilton, ou les parcours hamiltoniens. Donc, quand vous regardez ce schéma-là, à l'époque, il avait produit, d'ailleurs, je l'ai un peu simplifié là-bas, en disant, bah, si je dois me balader sur ce graphe, comment je vais faire pour partir d'un point et revenir au point de départ en parcourant la distance la plus courte ou bien le temps le plus court. Et donc, c'est ce qu'on appelle un parcours hamiltonien. Et c'est presque le début de la logistique et de la supply. Parce que quand on travaille sur des questions de distribution, ben c'est ce qu'on fait en général. C'est-à-dire qu'on distribue un certain nombre d'entrepôts, de magasins, etc. On va chercher toujours à minimiser le temps de parcours ou à minimiser la distance parcourue. Et donc, vous voyez, il y a un petit schéma qui montre, finalement, c'est un apport assez intéressant qui a été pas mal développé derrière, approfondi, modélisé, etc., etc. Alors maintenant, si je reviens à la supply. À la supply, donc globalement, on gère des flux physiques, des flux d'informations et des flux financiers. Donc gérer des flux, c'est-à-dire on va du fournisseur jusqu'à la distribution finale. Donc on passe par plusieurs maillons, donc plusieurs acteurs. C'est pour ça qu'on parle de chaîne, c'est-à-dire qu'il y a des chaînons. Et donc, lorsqu'on s'intéresse à ces flux-là, il va falloir à un moment donné les gérer, les optimiser. Les gérer, ça veut dire quoi? Ben, on va réduire les stocks. S'il y a des financiers dans la salle, le stock, c'est du BFR, c'est du working capital qu'il faut minimiser. On va minimiser ou optimiser ce qu'on appelle le lead time. Il faut livrer le produit ou le service à temps, etc., etc. Donc, Ces éléments-là à gérer mobilisent un certain nombre d'outils. C'est-à-dire, il y a de la prévision, il y a de la planification, il y a la gestion des stocks, il y a la distribution, etc. etc. La distribution, pensez à Hamilton. Donc tout ça, les élèves l'ont vu à travers 16 modules qui sont à peu près coordonnés avec nos collègues de Lausanne qui interviennent également dans notre formation. On part de la prévision jusqu'à la distribution finale. Ça veut dire qu'on mobilise à la fois de la modélisation classique, de la finance, du management, pour savoir à quel moment on a un réseau optimal, à la fois économique et en termes de temps et de délai. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est les évolutions futures pour nous. Hein. Donc ça, c'est acquis, ça tourne. On a deux évolutions qu'on est en train de mettre en place, qu'on développe. La première évolution, c'est ce qu'on appelle la supply chain digitale numérique. C'est une évolution importante. Vous n'avez qu'à penser à Amazon aujourd'hui. Il repose ses travaux sur de la prédictivité, sur les big data pour faire des prévisions et presque anticiper le moment où vous allez commander votre produit et le rapprocher de vous pour gagner du temps. Alors que vous ne l'avez même pas encore commandé, c'est-à-dire à travers les clics, on va apprendre ce qu'on appelle le parcours client, l'expérience consommateur, et à partir de là, on va faire des prévisions plus intéressantes. Donc on est en train de travailler là-dessus pour introduire des modules plus costauds là-dessus. La deuxième évolution pour nous importante, qu'on a commencé à mettre en place, c'est ce qu'on appelle la green supply chain. C'est-à-dire qu'en gros, la question de la supply chain, donc vous voyez, c'est du transport. Tout à l'heure, Jacques, il a dit, effectivement, on fabrique au Maroc, on fait venir le produit. Il n'a pas parlé du CO2, par exemple. Donc la question qui va se poser pour nous, c'est quoi une supply chain soutenable, durable? Donc vous voyez les contraintes de CO2, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qu'on introduit progressivement, notamment, on est aussi à l'École des Ponts, la question de transition énergétique est très importante. Voilà les évolutions futures. La promotion de cette année, donc 17 étudiants, c'est exceptionnellement une petite promotion. Il y a même, je crois, 5 ou 6 présents cet après-midi. On va en profiter parce que l'an prochain, ils seront 36. Donc, alors, la promotion. Donc, l'âge moyen, 28. Et comme on est à l'école, la note moyenne est de 14,61. Le minimum est à 12,7. Et le maximum à 16,48. Donc, cette promotion comporte, donc, il y a... Oui, ben voilà. 7 ingénieurs, 6 masters 2 et 4 écoles de commerce. Donc on a, on va dire, 9 filles et 8 garçons. Donc on est au-delà de 50%. On n'a pas fait exprès. 100% sans poste à l'issue de la formation. Donc certains d'entre eux ne sont pas là. Il y en a qui sont à l'étranger. Ils ont un certain nombre de missions à accomplir. Donc je repasse mes photos encore, parce que je dois en avoir encore une autre. Donc il y a le travail, il y a tout le reste. Mais je n'ai pas de photos de déplacement, parce qu'on nous a vidé 5 minutes, donc je suis resté sur 5 minutes. J'ai trouvé des choses, à la fois l'alimentation intellectuelle et physique. Et les derniers, ici. Donc, parce qu'après, il faut aller travailler. Hein. C'est pour ça qu'on fait ça dans la salle, et on retourne travailler. C'est pendant la pause en plus, c'est-à-dire qu'on essaye de gérer le lead time. Bien, donc j'arrive au moment où je vais commencer à appeler les élèves. D'abord, je les félicite, toutes mes félicitations, je crois que c'est une promotion assez superbe. Je crois soudée, donc je ne vais pas redire tout ce que j'ai entendu, je le reprendrai quasiment à l'identique. Excellente promotion. N'oubliez pas que vous serez bien sûr dans le réseau des masters de l'École des Ponts, mais également... l'alumni de Lausanne, de l'EPFL, parce qu'on est sur deux alumni.
à tous. Donc j'enchaîne avec le master spécialisé ingénierie et management des Smart Cities. 177 diplômés en tout, donc vous comprenez que ça prend un peu de temps. Alors Smart City a fait un effort, ça va être assez rapide puisqu'on n'est que 3 à être présents. Et je vais en profiter pour essayer de rattraper un peu le timing. Ce master a déjà, c'est déjà sa 4e promo, il a été créé en 2015. Avec 13, 12, 6 inscrits l'année dernière et puis 11 cette année. En fait, ils étaient 14 inscrits et à la rentrée, ils étaient plus que 6 à avoir réussi à boucler leur financement. Donc je rends hommage à tous les masteriens qui sont présents dans la salle parce que c'est vraiment un défi déjà de monter le dossier, de tenir l'année. Donc bravo à tous, pas uniquement Smart City. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai fait moi-même un master spécialisé en 2011. Vraiment, toutes mes félicitations. Le master a été renommé en 2016, il s'appelait Système Urbain Intégré, on avait beaucoup de mal à intéresser les gens avec ce nom, Smart City, ça parle immédiatement. On a eu un retour quasi immédiat de visibilité, d'articles dans la presse, de demandes d'interviews, d'invitations à des colloques, comme quoi le marketing, c'est quand même un sujet assez important. Et donc j'en profite pour remercier le Pôle MS et notamment la communication avec Stéphanie Laine et Océane Ekra qui ont fait un boulot exceptionnel. Oui, vous pouvez les applaudir. Puisque c'est le moment des hommages, je voudrais remercier Jacques qui va nous quitter, en tout cas à l'école. Jacques, qui, comme beaucoup d'autres directeurs, m'a repéré, m'a accompagné, m'a enseigné les bases du métier, et donc sur ce sujet, qui était vraiment en avance de phase en 2015, et qui aujourd'hui est en plein boom. Je vous apprends rien, il suffit d'ouvrir le moindre quotidien pour avoir un sujet Smart City aujourd'hui. Donc on est content d'être présent, et avec cette ancienneté, ça n'a pas été toujours très facile d'intéresser les entreprises. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Depuis l'ouverture, on a une parité exacte homme-femme dans ce master. C'est aussi un sujet de satisfaction. Et un master qui permet de développer un lien avec le monde économique assez fort. Donc c'est un peu là-dessus que je vais insister. On a dans le programme de formation un projet long qui dure 70 heures, qui est le fil rouge et qui permet chaque semaine, parce que c'est un master en alternance, d'appliquer les enseignements théoriques sur un sujet réel. Et donc cette année, on va travailler avec deux EPA, établissements publics d'aménagement, sur deux DIVD, qui sont des démonstrateurs industriels de la ville durable. À Rêve de Seine Urbaine, qui est à pleine commune, où on va plancher sur le sujet d'un hub de formation pour l'école bleue. Alors vous êtes plutôt d'école blanche, pour ceux qui ne connaissent pas la différence. Et en fait, il s'agit de valoriser, après les Jeux Olympiques, les constructions du village olympique à Saint-Denis. Donc vraiment un sujet central. Et puis notre partenaire historique, qui est l'EPAMARN, on va travailler sur le Descartes 21. Nous sommes à Descartes 21. C'est donc l'évolution dans la vingtaine d'années qui est devant nous de ce campus universitaire qui est appelé à devenir un smart campus. Donc on est très fiers, à l'École des Ponts et dans le master spécialisé, d'être au cœur de ces deux opérations d'intérêt national. Et je remercie les masteriens pour leur implication dans ces sujets. On va passer au cœur du sujet. Donc ils sont trois présents, parce qu'en fait, sur une promo de 6, il y en a trois autres qui n'ont pas encore terminé leur thèse professionnelle, donc ils ne peuvent pas être diplômés. Je voudrais rendre hommage à Geneviève qui n'est pas là. Geneviève est grecque, elle habitait à La Réunion, donc elle a commencé le master spécialisé à La Réunion pour des raisons de vie personnelle. Elle a pendant un moment, elle n'a pas pu venir suivre les cours, donc on a mis en place un procédé assez compliqué pour qu'elle puisse suivre avec une retransmission en direct les cours avec une webcam. Donc c'est vrai que ça nous a demandé pas mal d'efforts, mais elle nous a renvoyé l'ascenseur puisque elle est en thèse professionnelle à Vinci. Et en fait, c'est elle qui a l'initiative du contact qui nous a permis de nous intégrer dans le DIVD RSU. Donc je trouve que c'est vraiment un très bon exemple de ces échanges que suscite ce passage très intense à l'école. Voilà. Et il m'arrive aussi de travailler dans d'autres écoles. Alors, je ne vais pas les citer parce que ce ne serait pas élégant, mais ça me permet de remarquer à quel point nous avons un niveau d'exigence envers vous et un niveau que vous relevez. Donc, vraiment, félicitations, bravo.
Bonjour. C'est le tour du Master Immobilier et Bâtiment Durable. Il a été créé sur l'initiative de Jacques, que je remercie à nouveau aujourd'hui, en 2011. Aujourd'hui, va être diplômée la 5e promotion. La 6e est en train de rédiger sa thèse et la 7e est en train de suivre des cours. Et le sous-titre est plus important que le titre, Transition énergétique et numérique. Nous sommes sur les deux révolutions en cours qui transforment profondément l'immobilier et la ville. Les auditeurs du master sont des cadres en poste, c'est un master à temps partiel et nous marions la culture immobilière avec le droit et la finance et la culture du bâtiment avec les sciences des ingénieurs et l'architecture, le tout sous l'égide du développement durable et de la révolution digitale. Alors, les cadres qui sont en poste dans leur entreprise ou dans leur ministère vont puiser dans le contenu. Au premier semestre, on a travaillé sur les enjeux climatiques, puis quartier et ville durable, comportement et usage, une expérience étrangère, le Royaume-Uni, avec un partenariat que nous avons avec les universités de Leeds et de Salford, stratégie et gestion de parc et financement. Et dans le second semestre, on rentre dans le concret, management de projet, programmation, conception, réalisation, exploitation des immeubles neufs, réhabilités ou existants. On remercie les entreprises qui nous soutiennent, Crédit Agricole Immobilier, qui a une politique très active de mécénat, c'est tout à fait original par rapport au master spécialisé. Ils nous soutiennent pendant une période de 6 ans. Logement français, filiale d'AXA, Postimo, Saint-Gobain, Dalkia. Nous remercions Engie qui nous a rejoints cette année. Et les deux ministères nous soutiennent de manière, depuis plusieurs années, le ministère chargé de l'écologie et le ministère du logement. Saint-Gobain préside notre conseil d'orientation. Nous notons aussi depuis 2 ans un fort intérêt du ministère des Armées. Son service des infrastructures de la défense, pour les 2 dernières années, nous a envoyé 5 officiers supérieurs chargés de la construction, de la réhabilitation et de la gestion des infrastructures des 3 armées. Notre partenaire scientifique, c'est le CSTB, qui préside notre comité scientifique et pédagogique. Les cadres qui ont suivi notre master vont profiter aussi du soutien de la RICS. La RICS est Royal Institution of Charter Surveyors. Nous sommes accrédités RICS depuis 1 an et demi. C'est la principale organisation professionnelle mondiale dans le champ de l'immobilier et de la construction. Et puis, nous suggérons aussi à nos auditeurs de rejoindre au sein de Pont Alumni le groupement X-Pont-Pierre, qui est le groupement de l'immobilier commun à l'École Polytechnique et à l'École des Ponts. Et nous avons un des anciens, d'ailleurs, du master qui est au bureau depuis 2 ans de ce groupement professionnel. Ce master est géré par une équipe unie de 4 personnes, outre votre serviteur. Je tiens vivement à remercier Céline Bois, architecte, responsable académique, Christine Gomez, que vous avez vue à plusieurs occasions, puisqu'elle s'occupe de 2 autres masters, inspectrice des études, et Sandra Sandoval, assistante. C'est très important, cet esprit d'équipe. C'est très important. Il n'y a que les directeurs qui ont la parole cet après-midi, mais en fait, c'est toujours un travail collectif, la gestion de ces masters. Et je remercie vivement les 3 personnes qui constituent cette équipe avec moi. Donc, la promo, il y a 16 diplômés, 15 de la promo, plus une personne qui était de la promo précédente et qui n'avait pas pu soutenir sa thèse pour des raisons de santé. Et puis, il y en a 3 qui sont en retard pour des raisons professionnelles, parce qu'ils ont des nouveaux projets professionnels, et qui soutiendront leur thèse l'année prochaine. Ce qui fait qu'on est à un niveau de 16 personnes pour cette année. Tout le monde ne sera pas présent, notamment un certain nombre de personnes qui travaillent en région. Donc, cette année, 16 diplômés, 6 femmes, 10 hommes. Nous sommes un peu loin de la parité, mais enfin, on a fait pire dans le passé. L'âge, ça va de 25 à 56 ans. La moyenne d'âge est de 39 ans. Et vous venez moitié du privé, moitié du public. Du côté du privé, vous êtes dans des entreprises de promotion, vous êtes consultant, membre de bureau d'études, énergéticien, industriel ou membre de fédération professionnelle. Du côté public, nous avons effectivement la filière immobilière de la Poste qui nous soutient, mais nous avons aussi les deux ministères. Nous avons une personne qui est au ministère de la Justice et nous sommes également dans le milieu associatif, et ça on s'en félicite, c'est un peu nouveau cette année, puisque parmi les diplômés, il y a le directeur immobilier d'Emmaüs France et la responsable du programme Toi d'abord, T-O-I-T-S, de la Fondation Abbé Pierre. Voilà, donc nous faisons maintenant appel à vous pour la remise des diplômes.
Bonjour à tous, je suis Françoise Manderscheid, je suis la directrice du master, mais le master ne se fait pas tout seul et je suis très heureuse aujourd'hui que nous ayons avec nous donc Jérôme Martre de la RATP, Christian Chang et Jocelyn Gallou de la SNCF et Didier Dupré d'Alstom. Donc ce sont nos fidèles partenaires qui soutiennent le master depuis sa création et qui sont très actifs dans son évolution, dans son activité. Voilà. Alors, ça marche comme ça ? Voilà. Alors, aujourd'hui, on accueille, on diplôme la 9e promotion. Et je dois dire qu'il y a quelque chose que je retiendrai beaucoup de cette promotion, que c'est une promotion extrêmement sympathique. Toujours souriante, toujours partante, pleine d'idées, et elle était à géométrie variable. Alors on est dans une école d'ingénieurs, les comptes devraient être bons, mais là c'est un petit peu difficile. Alors je pense qu'à la rentrée c'était 30 étudiants, aujourd'hui c'est 28, on est monté à 32, il y a des jours où on me disait que c'est 34, donc tout le monde y perdait son latin, même Chantal, qui voilà, comptait, recomptait nos étudiants. Alors, ce sont les partenaires industriels du master nous demandent d'internationaliser de plus en plus la formation. Et voilà, c'est comme ça que, conformément à leurs vœux, nous accueillons des experts ferroviaires venus des quatre coins du monde, dont voilà Stéphane qui arrive d'Afrique du Sud. Je pense que Sophie n'a pas mentionné l'Afrique du Sud, mais c'est pas grave, de Johannesburg, mais il était passé par le Cameroun et je ne sais pas s'il va repartir à Johannesburg. Enfin, c'est pas très clair. voilà, on avait donc sur les 30 étudiants, on avait 11 nationalités, ce qui je crois est quand même pour nous quelque chose d'assez exceptionnel. Je dois dire aussi qu'on est très contents et très fiers de voir arriver Kaina, dite Chérifa, d'Alger, qui a laissé son poste au PCC d'Alger pour se former très courageusement, avec beaucoup de pugnacité. Ibrahima, qui a fait la route de Bruxelles parce qu'il n'a pas trouvé de formation comme ça en Belgique. Donc il est venu à Paris, on est très contents. José, Jonathan, qui vient de Charleroi. José, qui venait de Madrid, mais alors Madrid, aujourd'hui, il n'est pas venu, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Et Amine, alors Amine, finalement, je crois qu'il a fini, il a choisi de se stabiliser en France et en Bourgogne. Voilà. Donc, je dois dire que cette année, avec l'internationalisation croissante du master, j'ai appris une chose un peu compliquée sur les états civils. C'est que finalement, on avait un tiers de nos étudiants qui avaient deux prénoms et un prénom usuel qui n'était pas toujours identique au prénom d'état civil et qu'il a fallu s'y faire, même si j'ai compris que l'administration française avait un peu de mal avec cet usage. Voilà, alors, la journée de la femme, c'était hier, mais la journée ferroviaire de la femme, c'est aujourd'hui. Voilà, alors vous voyez que nous avions un score inégalé, 33% de femmes. Bon, c'est inégalé dans le master ferroviaire. C'est, je crois, inégalé, je pense que la SNCF et la RATP mettront, et Alstom mettront un certain temps à arriver à des chiffres aussi importants, surtout si on est dans l'aspect technique et ingénierie. Mais vous voyez sur cette photo qu'elles ont été quasiment toute l'année heureuses. Et je dois dire que je formulerai volontiers un vœu aujourd'hui, c'est qu'à l'École des Ponts, il n'y a aucun amphithéâtre, aucune grande salle de cours qui porte le nom d'une femme, et peut-être un jour, il y aura le nom d'une de ces femmes qui sera écrit à l'entête d'un amphithéâtre. Voilà, donc toutes nos... Alors, moi j'ai essayé de dresser quelques caractéristiques de cette promotion sympathique, c'est qu'elle n'était jamais à court d'idées, et je dois dire que Chantal et moi, nous avons beaucoup couru derrière les idées de nos étudiants. Donc, généralement, on dit en pédagogie que l'enseignement, c'est l'art de l'éternel recommencement. Ben non, avec la 9e promotion du master ferroviaire, c'était l'art de l'innovation. Donc, il fallait, en toutes circonstances, innover, surtout des cours que les étudiants n'avaient pas eu et souhaitaient avoir, et tant et si bien que finalement, deux étudiants sont passés en quelques semaines du statut d'étudiant non diplômé à celui d'enseignant patenté, qualifié. Et là, je remercie donc Ibrahima qui nous a parlé du fret en Belgique et aussi un petit peu en Afrique, parce que Bolloré n'est jamais venu nous faire ce cours. Et puis Ramadan qui a inauguré les cours télécom dans le master ferroviaire. Je dois dire que j'en étais très heureuse, ça faisait 3 ans qu'on les attendait. Alors, dans cette promotion, on a découvert aussi qu'on avait beaucoup d'expertise, et notamment d'expertise en bruit ferroviaire. Je pense que le summum de la pédagogie inversée a été atteint quand on est allé visiter le tramway de Strasbourg, donc le tramway des deux rives entre la France et qui est la première ville allemande de la frontière, et que donc nous étions accueillis par une charmante chef de projet, architecte, donc qui était de la mairie de la communauté de Strasbourg, et qui était donc la directrice du projet. Et en fait, au bout d'une demi-heure, ce sont les étudiants du master qui lui faisaient cours et qui lui ont fait un cours sur le bruit ferroviaire et sur toute la question des externalités négatives qu'elle allait avoir à partir du moment où, au droit du pont, la ville de Strasbourg allait choisir de construire des immeubles d'habitation. Je pense qu'elle n'a pas du tout regretté notre visite, cette dame. Alors, traditionnellement, le master ferroviaire allait en voyage en Angleterre. Il y a beaucoup de choses à découvrir en Angleterre. Et on a été voir notamment comment les Anglais entretenaient leur matériel roulant. Alors, on n'a pas été voir de dépôt Alstom en France, mais on y a été donc à Manchester. On a été voir un très vieux dépôt qui s'appelle le dépôt de Longside et qui a été magnifiquement rénové. Et on a surtout été voir comment Alstom entretenait des trains Virgin et comment ces trains qui étaient en fait ce qu'on a, les Anglais appellent le tilting train, pendolinet, donc c'est un train pendulaire qui n'a jamais roulé en France, mais que Alstom donc fait rouler avec Virgin en Angleterre. On a vu aussi que le TFL, c'est-à-dire Transport for London, qui est l'équivalent de Île-de-France Mobilité, le STIF dont venait Sophie, pouvait entreprendre de rénover des très 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 vieilles rames de métro, ce qui s'apparenterait normalement à une opération à mi-vie, c'est-à-dire à 20 ans, 15-20 ans d'ancienneté. Là, ils faisaient des opérations pour des métros qui avaient 40 ans d'ancienneté. Vous voyez l'état du métro sur la gauche, et vous voyez au milieu... comment a été le métro rénové par nos amis du métro londonien. Alors, toujours à Manchester, on a été voir une magnifique usine Alstom, alors, et un équipement moderne très intéressant qui est un train scanner. C'est le train scanner construit par Alstom, mais qui n'existe pas, qui n'est pas installé en France aujourd'hui. Donc, on a été le voir à Manchester. Donc, c'est une machine avec beaucoup d'intelligence artificielle et scanner, comme son nom l'indique, qui permet en 5 minutes d'avoir un diagnostic très précis de l'état du train. Et puis, en même temps, on a vu l'usine du futur. Alors, l'usine du futur, c'est un sujet qui est très cher à l'école des ponts. Et on a vu comment, dans ce dépôt, tout était... il y avait une logistique absolument robotisée et magnifique des pièces détachées pour faire la maintenance. Voilà, maintenant, j'en arrive à la fin. Et je voudrais que, donc, Laetitia et Brunhilde nous rejoignent, parce que les étudiants ont travaillé pendant une partie de l'année sur des projets internationaux, et que cette année, nous allons... il y a eu donc la constitution, la création, en fait, d'un yearbook. Brunhilde, tu pouvais peut-être le montrer. Et donc, c'est le premier yearbook des masters, en fait, dans lequel les travaux des projets internationaux des étudiants ont été repris et qui fera donc une très belle plaquette sur le master et que vous pourrez vous servir. Voilà. Donc, je dois remercier aussi Isabelle Gautron, qui a donc qui dirige la documentation et qui a été aussi tout à fait collaborative dans ce projet. Et je crois que c'est l'idée venait de vous, en fait, hein, il me semble.
Ensemble.
Ouais. Ouais, voilà. Et puis on retrouve la belle gare de Saint-Pancras, hein, Stéphanie, la prise en photo de Stéphanie. Et donc voilà, je pense que ça rappellera des souvenirs à Jocelyn et à un certain nombre d'entre vous. Les étudiants avaient travaillé sur Madagascar, l'île Maurice, Dubaï. Alors ils ont fait aussi des projets de tramway pour des villes où vous avez des pèlerinages. La ville de Qom en Iran, la ville de Touba au Sénégal, et puis aussi des liaisons de transport dans des villes improbables comme Port Saïd en Égypte, où le ministère disait aux étudiants, surtout ne travaillez pas sur ces sujets-là, c'est beaucoup trop dangereux.
Bonjour à toutes et à tous. Je continue avec le master spécialisé Design by Data. Je voudrais raconter en deux mots d'où vient cette formation, ce master spécialisé. La directrice a parlé au tout début du fait que au centre des préoccupations de l'école, il y a la transition numérique et la révolution des technologies de fabrication et de construction. Et le master spécialisé de Design by Data vient d'un questionnement et d'une interrogation face à quel positionnement il faut avoir face à cette technologie qui change le monde et la manière de fabriquer le monde. Et donc, avec Design by Data, on pense que le positionnement à avoir, c'est un positionnement de choix et actif, et non pas un positionnement passif par rapport à la technologie. Donc Ça veut dire que, en tant qu'architecte, en tant qu'ingénieur et en tant que designer, il faut décider et être créatif par rapport aux évolutions de la technologie. C'est-à-dire qu'il faut décider là où la technologie de la construction va aller. Et ça, c'est le centre de l'origine, de là où ça vient, cette formation. Donc, pour diriger une technologie, il faut tout d'abord la connaître. Donc, c'est ce qu'on fait dans cette formation. Connaître les technologies, les nouvelles technologies de la fabrication numérique et du numérique au sens large dans le monde de la construction, du design, de l'architecture et de l'ingénierie. Pour faire ça, évidemment, on a choisi une approche de plateforme, comme Jacques a dit. Donc, on considère que l'école, c'est une manière de mettre ensemble différentes choses et de travailler avec des acteurs différents et qui ne sont pas que des écoles. Donc, vous voyez ici les partenaires de la formation, ce sont des laboratoires de recherche, ce sont des start-up. Ce sont des agences d'architecture, des bureaux d'études, des associations travaillant sur le territoire, des Fab Labs, etc. Et cette diversité d'acteurs répond à la diversité aussi des contenus de la formation et aussi au mode de formation que nous avons choisi, c'est-à-dire très centré sur l'expérimentation et sur le faire. Donc, qu'est-ce qu'on enseigne dans ce master spécialisé? Évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, il est déjà très tard, mais de manière très rapide, on forme des architectes, des ingénieurs, des designers aux nouveaux enjeux de la conception numérique, des nouvelles morphologies non standards de l'architecture, à tout ce qui est nouveaux outils de fabrication numérique et les impacts de la robotique dans le bâtiment et dans l'architecture. So, Design by Data is a full English program, so I need to switch in English. Also because a lot of our students are not from France, 70% of them are coming from other countries. One specificity of the Design by Data program is that apart from classes, students also have access to prototyping and digital fabrication facilities here at school and also in our Fab Lab partners of the program. So it means that they can use this machine and these tools to fabricate. And all the students work during the year on a research project, and we ask them to fabricate, to build a prototype that needs to work as a proof of concept of their research. So you can see here some of the prototypes that have been built during the first year. I also need to mention that this is the first group of students that finished the Design by Data Master, so it's a very young program for the school. And we are now opening in September the third edition, and it's, I think, a program that is now having a lot of influence and connection here in the school, because we are working with the research lab Navier specifically, and also very strongly related with the robotic lab that will be launched soon here at the school. I think that about 90% or more of the students are now employed, so this is a very good result for the first year of a program. I can give you three examples of employment and opportunities that students of the first year are now working in. So the first example is Alvaro, who is here today, who is working at ECOS Paris, design consultancy in architecture, design and engineering in Paris. The second example is Paul, who is working here at school as a researcher on 3D printing. And the third example is Adrian, who is working with me at Design by Data in general here at school for academic coordination of digital fabrication. So I think I can say that if École des Ponts hires people from a program, it means that the program is very good.
bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes là donc, pour la première, le diplôme de la première promotion, la promotion inaugurale du Master Infrastructure Project Finance. Donc, c'était une année un petit peu particulière. C'est une formation qui a un objectif assez unique, puisqu'il s'agit en fait de former des gens qui ont un profil ingénieur, ou plutôt économique ou commercial, ou voire juridique, et de les former au développement de projets, au financement de grands projets d'infrastructure. Et donc on donnera quelques exemples tout à l'heure de projets sur lesquels les étudiants et les étudiantes ont travaillé. Il s'agit d'une formation qui est assez unique en Europe et même au niveau international, puisqu'elle est vraiment basée sur des cas pratiques, sur des cas d'application, et puis on va vous donner quelques exemples de sujets sur lesquels on a travaillé, sans être trop long. Voilà, donc l'objectif essentiel, on en a parlé, et peut-être quelques caractéristiques clés, au-delà du fait que la formation a vocation à être essentiellement en anglais, comme on le voit sur les diapos, c'est vraiment une approche pluridisciplinaire, et c'est la conviction que dans ces grands projets d'infrastructure, la création de valeur et la bonne gestion des risques, l'optimisation de ces projets, elle naît à la rencontre entre des sujets qui sont pas seulement techniques, pas seulement financiers, pas seulement contractuels et juridiques, mais à la rencontre de tout ça et avec l'intégration des préoccupations environnementales et sociales dans ces projets. On a eu une étude de cas qui structurait tout le parcours et qui est une occasion pour les élèves de se livrer à une simulation grandeur nature pendant les 5 mois que dure la formation, à créer des équipes et à créer une forme de simulation avec un petit peu d'émulation et finalement un groupement qui a remporté un des appels d'offres. Et on s'attache pendant cette formation à prendre des exemples qui viennent de différents secteurs, que ce soit des secteurs des transports, de l'énergie, du bâtiment. Voilà, et donc l'objectif au final, c'est dans un secteur qui aujourd'hui manque cruellement de ressources hein, pour développer ces grands projets, que ce soit côté public ou côté privé, que ce soit également en France, mais aussi beaucoup à l'international, de former des spécialistes pluridisciplinaires, ce qui est vraiment une des forces du système d'enseignement à l'école des ponts en particulier, donc vraiment de s'inspirer de ce système-là pour en faire bénéficier tous les élèves du master spécialisé. Alors cette vocation du programme, on la retrouve dans la composition de la promotion qui est diplômée cette année, hein, puisqu'on avait à peu près 60% d'étudiants étrangers qui venaient des pays que vous voyez sur l'écran. En termes d'expérience préalable avant de rejoindre le programme, on a une partie des étudiants qui venaient plutôt d'une petite moitié, qui venait plutôt d'une expérience économique ou business, le reste venant plutôt d'une école d'ingénieur. Alors il manque la partie juridique, vous l'aurez remarqué, mais on a remédié à ça dans la deuxième promotion, puisqu'en ce moment on a 3 avocats qui suivent le programme cette année, et avec également des étudiants qui viennent du secteur public, et donc ça fait partie aussi de la vocation de ce programme, de former aussi des étudiants, et en l'occurrence une étudiante cette année qui sera diplômée, qui a vocation à travailler dans le secteur public, au sein du METS. En termes de débouchés professionnels, c'est relativement large, et peut-être la meilleure manière de voir ça, c'est de regarder sur le comité de soutien stratégique, qui est en fait un groupe de professionnels qui se sont engagés à soutenir le programme à plusieurs titres. Vous voyez un peu les différentes institutions qui sont représentées, la diversité des profils. Vous avez donc secteur public au sens large, en incluant la direction du Trésor, mais aussi la Banque européenne d'investissement, des banques, des assureurs, des constructeurs, des industriels, des avocats, des investisseurs, donc vraiment toute une diversité de profils qui reflète aussi la diversité de débouchés professionnels des étudiants et des étudiantes de la promotion. Voilà, il me reste avant de passer au diplôme à remercier très chaleureusement l'équipe du master avec Georges Leban, le directeur pédagogique, et Chantal Grandas, qui vous connaissez tous.
Bonsoir. Je voulais tout d'abord remercier la Direction générale des Ponts et Chaussées de nous accueillir toute cette après-midi. Merci, mesdames, pour cette belle remise de diplôme qui nous permet de reconstater combien le monde de la construction est en fait innovant quand on regarde l'ensemble des thématiques de ces différents masters spécialisés. Alors, nous allons diplômer là une promotion d'un très beau master, voilà, organisé dans les deux écoles Ponts et Chaussées et ESTP. L'ensemble des stagiaires qui ont suivi cette formation ont fait preuve d'innovation, de curiosité, puisqu'à la fois ils étaient entre ces deux écoles, donc entre deux sites, entre leur entreprise et la formation, puisque c'est sur 14 mois. Et puis c'est une formation de deux écoles d'ingénieurs, mais dirigée par quatre architectes. Olivier Selnik, Thibault Robert, Céline Bois et Hilda Maitino. Je vais simplement bien évidemment remercier et féliciter les 40 stagiaires qui vont être diplômés ce soir, mais aussi en tout les 176 diplômés que vous êtes aujourd'hui. Continuez d'être curieux, comme vous l'avez été pendant toute votre année de formation. Et pour reprendre une phrase d'une autre architecte que j'apprécie particulièrement, Charlotte Perriand, soyez curieux et ayez les yeux en éventail. Voilà.
Merci Catherine. Bonsoir à tous. Merci de nous accueillir ici. De grand plaisir de vous retrouver les uns et les autres. Quelques mots rapides puisqu'il est tard. Ce master spécialisé est aujourd'hui dans sa quatrième année. Il a été créé en 2014, l'an zéro du BIM en France, et il a contribué à ce que ce soit l'année de démarrage du BIM en France. Nous avons actuellement, avec la promotion en cours, 250 candidats, donc une énorme proportion des gens qui font du BIM en France le font ici, sont passés par ici, qu'ils soient d'un côté ou d'un autre de l'estrade. Ce sont des gens, comme j'ai pu le dire et l'écrire ailleurs, qui non seulement font du BIM, mais qui font le BIM. C'est en train de s'inventer. Ça se normalise d'un côté, mais ça se génère aussi par la pratique d'un autre. Et tous les candidats du master, notamment ceux qui sont diplômés ce soir, contribuent à faire en sorte que ce qu'ils font soit le BIM tel qu'il se pratique ici et ailleurs, dans leurs entreprises et dans leurs pays respectifs. Formation conséquente montée avec 9 établissements de formation co-organisés par l'École des Ponts et l'ESTP, comme il a été dit, avec 7 autres partenaires académiques, avec aujourd'hui 12 partenaires entreprises qui nous aident à sentir ce que le BIM doit être chez eux aujourd'hui et ce qu'il est nécessaire qu'il soit demain. Une formation qui évolue au fil des années, des prérequis deviennent un peu plus banalisés et puis des nouveaux thèmes apparaissent. Là où nous étions très centrés sur le monde du bâtiment à nos débuts, le BIM s'étend aujourd'hui dans deux directions, vers le très grand à l'échelle du territoire et notamment avec le partenariat avec l'EPAMARNE. Le BIM, c'est aujourd'hui des bâtiments qui sont posés sur un territoire et qui côtoient des infrastructures. C'est toutes ces dimensions qu'on montre. Et à l'autre échelle, l'Internet des objets qui commence à arriver pour l'exploitation maintenance. Ces deux sphères, nous les approchons. Donc les programmes évoluent. On était hier dans cette salle, on a des acteurs importants qui nous aident à sentir le vent. On était ici avec le directeur BIM d'Egis, Jean-Paul Tréhin, qui contribue aux travaux de normalisation et d'expérimentation en France. Et puis, j'aurais pu choisir de montrer des maquettes 3D, mais ça, on en a vu partout. Cette semaine, nous avons travaillé avec les mastériens. Retour sur basique. On s'aperçoit qu'on peut parler de nouvelles technologies et de nouvelles normes, mais qu'il est important de redéfinir les fondamentaux. On a passé deux journées en groupe, et c'est un aspect très important de cette formation, à se demander ce que sont un concours d'architecture ou d'aménagement, un permis de construire, un dossier de consultation, des phases exées, un dossier des ouvrages exécutés, des choses tout à fait basiques qu'on redéfinit à l'heure du BIM, mais dont on se rend compte que les professionnels eux-mêmes ne partagent pas tous la même conception de la chose. Donc on s'aperçoit aussi, et ça fait partie de nos missions, qu'à travers la réflexion sur le BIM, on tend à redéfinir des façons de faire courantes, mais pas toujours partagées. Cette approche en groupe est très importante. Nous étions sur la photo d'avant dans cette salle ici à l'École des Ponts. Et le lendemain, on se retrouve dans la salle BIM de l'ESTP, dans un environnement technologique non seulement de machines, mais surtout de machines au service de personnes qui travaillent ensemble et qui représentent, comme on a bien vu tout au long de l'après-midi, tous les métiers du bâtiment. Là aussi, tous les âges, toutes les nationalités sont représentées parmi nous. On sera présent à l'un des événements majeurs BIMworld, accueilli sur le centre de notre partenaire Bouygues dans 2 semaines. Donc là aussi, on contribue, on aura une tribune pour exposer notamment l'objet des thèses et entre autres de celles qui font l'objet des diplômes ce soir. On va pouvoir de ce fait accueillir les premiers candidats en continuant un clin d'œil à nos camarades de l'équipe pédagogique. On a cité Hilda et Céline qui sont là-bas, qui nous rejoindront pour la photo, sans lesquelles le master ne tournerait pas. On a cité Thibaut Robert, qui est le directeur académique chargé des programmes. Il faut évoquer Selma, qui nous aide au quotidien, Stéphanie et Marc de la communication et de la plateforme, et puis un petit clin d'œil à la fois à Philippe Petit, qui a été co-directeur avec moi pendant 3 années, et puis surtout à Jacques Grandjean, sans lequel rien ne serait arrivé, et qu'on est très heureux d'avoir côtoyé à cette occasion. Je ne vais pas raconter la vie de chacun, parce qu'ils sont très nombreux et on serait là tardivement, donc je vais les appeler un par un, et vous pourrez sur les slides en savoir un peu plus sur eux. Eddy Alix.
Bonjour à tout le monde, on doit dire à toutes et à tous, hein, ou à tous et à toutes. Je suis donc Louis-Michel Sanche, délégué général de la Fondation des Ponts, et je présente les excuses et je représente François Berthière, qui est le président de Bouygues Immobilier et qui est le président de la Fondation des Ponts, ainsi que le président du jury du prix du master, hein, qui est Thierry Déo, qui est le président de Méridiam, et qui a donc présidé ce jury. Alors, 2 mots sur la Fondation des Ponts, et puis après, je dirais 3 mots sur le prix du masterien de l'année. Bon, la Fondation des Ponts a été créée il y a 20 ans. C'est une fondation reconnue d'utilité publique qui a pour objet de recueillir, de collecter des dons, soit de la part d'entreprises à travers des chaires d'enseignement, de recherche ou de partenariat, comme c'est le cas pour plusieurs masters, et auprès de particuliers qui sont en général les anciens élèves de l'école ou des amis de l'école, et qui donnent pour le développement et la renommée de l'école des Ponts, notamment sur le plan international. Avec l'argent qui est collecté, la fondation donc donne des bourses, bon, des bourses d'excellence pour des étudiants, en particulier pour des étudiants étrangers qui viennent en double diplôme à l'école. Elle délivre des prix, dont le prix du masterien, dont je dirai un mot juste après. Et puis, elle soutient financièrement des projets d'investissement de l'école ou les activités de recherche ou d'enseignement de l'école. Voilà en quelques mots ce qu'est la fondation. Alors, tout ça se fait évidemment en liaison avec l'école et avec l'association des anciens élèves, Pont Alliance, donc, qui interviendra après. Et comme maintenant vous êtes diplômé et que je vous en félicite, vous entrez dans la catégorie des anciens élèves et pour ceux qui ne le sont pas, des amis de l'école, qui recevraient les sollicitations habituelles de la Fondation, puisque deux fois par an, en général au printemps et en fin d'année, comme beaucoup d'associations et de fondations, on fait des appels à dons pour le soutien de l'école. Donc je vous encourage à prêter attention à nos relances et de ne pas nous en vouloir si vous nous trouvez un peu insistants, mais c'est ça qui permet à l'école de se développer avec, comme l'a dit Sophie Mouguer au début, une baisse constante des dotations de l'État pour le fonctionnement de l'école. Voilà sur la Fondation. Alors, le prix du masterien de l'année. On appelle ça le prix du masterien de l'année, ce n'est pas le prix du meilleur masterien, étant donné évidemment que la personne qui a le prix a été brillante sur le plan académique et a reçu le diplôme. Mais l'objectif, c'est de demander à ceux qui se portent candidats à l'obtention de ce prix de se projeter 10 ans ou 20 ans en avant et d'écrire le curriculum vitae qu'ils écriraient 20 ans après leur sortie du master. Et celui ou celle qui convainc le jury de la plus grande cohérence, de la plus grande originalité, de la plus grande ambition et en même temps réalisme de ce parcours, passé et futur, et bien c'est à cette personne que l'on attribue le prix du masterien de l'année 2017-2018. Alors, vous allez voir les 8 candidats qui se sont présentés et qui ont entendu le jury, que l'on va appeler, je crois qu'il y en a 7 qui sont présents ici. Le résultat a été tenu sous embargo, donc personne ne sait parmi les candidats qui a obtenu le prix du masterien de l'année. Donc, les 8 candidats ou candidates qui se sont présentés sont Isabelle Delaporte, du master ingénierie management des Smart Cities. Je ne la vois pas. Ah, non, mais venez. Bon. Thibaut Gagneux, du master immobilier bâtiment durable. Grégoire Van Est, du master génie civil des grands ouvrages pour l'énergie. Arthur Pérez Marcérès, du master Amur. Bon, Hélène Cash, qui n'a pas pu venir, qui était du master Supply Chain Design and Management. Léonard Guibert, du master génie civil des grands ouvrages pour l'énergie. Sarah Karadec, du master Amur. Et Fedi Ayadi, du master génie civil européen. 3, 4, 5, 6, 7. Donc les 7 sont là, plus donc Hélène Quache qui n'a pas pu venir. Oui, effectivement, comme on a un peu de temps, puisque le timing a été parfaitement respecté, chacun pourrait peut-être présenter rapidement sa thèse professionnelle. Je vous donne. Donc le jury était composé de Thierry Déo, qui était le président, donc le président de Méridiam. Méridiam qui a créé d'ailleurs une chaire à l'École des Ponts en octobre 2017, donc c'est une nouvelle chaire, et qui est un grand donateur de la Fondation. Donc Bruno Chanu, qui travaille chez Sato Associés, donc Sato est un ingénieur des ponts franco-japonais qui a son bureau d'études, Boris Rovenchin chez Systra, Jacques Grandjean, que vous connaissez tous, et votre serviteur. Il manquait dans le jury Anne-Bernard Gély, qui d'habitude en fait partie, j'explique ça parce que ça fait très masculin, donc il fallait quand même une note féminine, mais elle a eu un empêchement de dernière minute, donc elle n'a pas pu rejoindre le jury. Donc les 8 candidats venaient de 6 masters, hein, comme vous l'avez vu, puisqu'il y en a 2 du master Amur et 2 du master GCOE, et nous avions 3 filles pour 5 garçons, donc on est à peu près dans les proportions globales des masters, mais ça n'est pas un critère a priori, hein, c'est un constat a posteriori. Voilà. Donc, avant de passer à la partie intéressante qui est la nomination du masterien ou de la masterienne de l'année, bon, peut-être que chacun pourrait dire un mot sur ce qu'il a fait, puisque le jury a été effectivement, comme tous les ans, assez impressionné, pour ne pas dire très impressionné, par la qualité de tous les candidats. Et donc, ça vaut le coup, je pense, qu'ils nous disent un mot de leur parcours. Okay. Oui, oui, non, ben, non, non, vous avez le micro, allez-y.
Okay. C'est Fedi Ayedi, du Master Génie Civil Européen à l'École Nationale des Ponts. Et j'ai fait ma thèse professionnelle à FH Construction, où j'ai réalisé une étude d'exécution d'un bâtiment dans une approche totalement digitale. En fait, on a fait une analyse multicritère entre la méthode traditionnelle et la méthode digitale.
Bonjour, moi c'est Léonard Guibert. J'ai réalisé mon master en GCGOE et j'ai fait ma thèse professionnelle chez FH Infrastructure, plus particulièrement chez le BIEP, sous la tutelle de M. Bossan et de Nomiki Kotaki. Et j'ai travaillé sur le dimensionnement des écrans de soutènement dans des contextes hydrodynamiques un peu compliqués que l'on rencontre actuellement sur le Grand Paris.
Isabelle Delaporte, Master IMSC Smart City. Moi, j'ai fait ma thèse à la communauté d'agglomération de Paris-Saclay. Et j'ai souhaité mettre l'accent sur le design thinking au service de l'action publique, l'objectif étant de mettre le besoin des citoyens, des agents et des différents acteurs de la ville pour faire émerger des idées nouvelles et d'innovations auxquelles on ne pense pas encore aujourd'hui, innovations qui ne sont pas forcément technologiques mais aussi comportementales.
Bonjour, Thibaut Gagneux, master immobilier et bâtiment durable. Je travaille chez Postimo, la filiale immobilière du groupe La Poste. J'ai fait ma thèse sur la certification environnementale des grands projets immobiliers au sein de La Poste pour embarquer l'ambition environnementale et énergétique au sein du groupe. Et puis pour le prix du masterien, j'ai travaillé sur la notion de qualité d'usage dans l'immobilier.
Merci, bonjour à tous. Grégoire Vanès, moi j'ai fait le master génie civil des grands ouvrages pour l'énergie, comme Léonard. J'ai fait ma thèse chez EDF, donc la construction des nouvelles, tout ce qui est nouveau nucléaire, et en plus particulièrement sur les ancrages. Un ancrage, c'est ce qui te permet de fixer les équipements aux structures génie civil. Et donc moi j'ai travaillé sur l'analyse de la contrainte et de la rigidité justement de cette plaque d'ancrage avec des modélisations éléments finis par exemple. Voilà.
Bonjour, Arthur Pérez-Marcer, je suis issu du Master Aménagement et Maîtrise d'Ouvrage Urbaine. J'ai fait mon mémoire de fin d'études à la RATP en me questionnant sur l'évolution des pôles de mobilité en région parisienne. Et je me suis projeté à plus de 10 ans dans le cadre, je suis en train de concrétiser une expatriation à San Francisco, donc sur l'impact des entreprises de la tech présentes dans la Silicon Valley sur les stratégies d'aménagement du territoire et de transport.
Donc Sarah Karadec, du Master Aménagement et Maîtrise d'Ouvrage Urbaine. Et dans le cadre du prix du Masterien, j'ai parlé de ma vision du métier de l'aménagement, de ce qu'on pourrait lui apporter, et notamment sur les zones portuaires, en France et ailleurs.
Alors, je vais passer donc à la proclamation des résultats. Comme je l'ai dit, le jury a été particulièrement impressionné cette année par la qualité des candidats. Et donc, il a décidé, en plus du prix du masterien de l'année, qui est de 1 500 euros, d'accorder un prix spécial du jury, supplémentaire. Donc, je vais commencer par ce prix spécial du jury, qui n'est pas automatique, et qui a été attribué à Léonard Guibert. Bon. Pourquoi Léonard Guibert? C'est l'archétype de l'ingénieur qui veut faire un métier d'ingénieur, donc ça rassure dans une école d'ingénieurs. Et il nous a paru quand même dommage de ne pas récompenser ce profil particulier, même si on ne l'a pas désigné le masterien de l'année, sachant que les années précédentes, il y avait beaucoup de profils correspondant à ce métier d'ingénieur. Voilà. Et donc, je passe au prix du masterien de l'année 2017 à Arthur Pérez-Marcérès. deux mots sur le pourquoi. Ce qui a impressionné le jury, c'est son parcours qui est raisonnablement aventureux. Alors, aventureux parce que, comme il l'a dit, il va partir dans un milieu étranger, loin, et donc un peu à l'aventure, mais raisonnablement quand même parce qu'il a des compétences solides et qui, j'espère, ont été affermies par le master Amur qu'il a suivi brillamment. Voilà, donc c'est cette combinaison, cette projection sur le long terme et en même temps la cohérence du parcours qui a séduit le plus le jury cette année. Voilà. Vous avez un site très bien fait sur Pont Alliance, donc je vous encourage vivement à les regarder, puisque vous êtes maintenant diplômés, donc anciens élèves de l'école et parfaitement susceptibles d'adhérer et de cotiser à Pont Alliance. Bon, voilà.